Alors maintenant sur la série.
Un doodle?
Alors non.
Comme les autres, je trouve ça assez maladroit.
Fort conservatisme patrimonial et c'est.
On ne se moque pas.
On fait avec ce qu'on a.
Je cherchais une contrepétrie avec urne et je.
J'y passe tous les jours.
Alors on va peut-être commencer par le sujet de l'enquête, ce rapport qui est sorti sur le nucléaire et la transition énergétique donc il y a 2 semaines. Donc un rapport que Mediapart, comme l'a dit Jérémy, a sorti. Ce n'est pas la première fois que Mediapart sort des infos qui étaient censées rester confidentielles. Une réaction.
Enfin moi je voulais juste revenir sur les pertes d'emploi en fait suscitées par l'abandon du nucléaire. Enfin je sais pas trop mais un des grands arguments aussi de la transition énergétique c'est que ça relancerait aussi la croissance, je sais pas.
Donc ça créerait beaucoup d'emplois
dans la rénovation des bâtiments, etc. Je sais pas si Lino, tu peux nous éclairer là-dessus.
Honnêtement, on ne sait pas trop. C'est certain, ça générera des investissements. En fait, ça dépend de l'intensité en emploi de ces investissements. Alors oui, pour la rénovation des bâtiments, c'est certain. Il suffit de voir, par exemple, Confluence. Donc le bâtiment, c'est en effet beaucoup d'emplois. Pour d'autres champs, c'est moins certain. Enfin, une fois qu'on a bâti une éolienne, il n'y a pas besoin d'énormément de gens. Mais c'est la même chose. Donc en fait, c'est très difficile à estimer, surtout quand on est sur des horizons très longs. Donc il va y avoir du progrès technologique. On ne sait pas quelle forme il va prendre. Donc toutes les études qu'elles démontrent l'un ou l'autre, ça dépend beaucoup des hypothèses sur l'emploi.
Oui, et puis Jérémy, tu pointais aussi que le rapport avait des trous méthodologiques.
Le rapport mentionne à peine cette question des emplois. Il indique, et ça c'est certain, qu'il y a un vivier d'emplois d'ingénieurs notamment, mais oui, c'est pas le sujet du rapport, ça, en fait.
Oui, de toute façon.
Donc c'est vraiment un angle mort.
Que ça va générer des emplois. Après, est-ce que c'est plus ou moins intense
Voilà.
Ouais. Je pense que en fait, faudrait baser sur un autre le débat sur la transition énergétique sur un autre plan.
Oui, et puis c'est une question qui est beaucoup plus politique actuellement qu'économique. On a entendu Nicolas Sarkozy dans le petit extrait qui est passé. Ségolène Royal aussi, ces derniers mois, s'est relativement fait connaître pour ses positions sur le nucléaire.
Et il y avait un numéro d'une excellente émission d'économie sur France Culture dédiée au nucléaire sur en fait la crise du nucléaire parce que il est en crise actuellement, en particulier Areva va très mal et qui était très intéressant.
Il y a l'EPR à Flamanville notamment qui grève
beaucoup.
Et
en Finlande encore plus.
Oui, c'est vrai qu'il y en a 3 là-bas, je crois.
C'est ça. Donc si vous êtes intéressé par cette question, vous avez ce très bon numéro. Enfin, je vous conseille d'écouter l'émission et en particulier ce numéro.
Alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux absolument pas répondre et peut-être que l'un d'entre vous pourra m'éclairer. Areva, tu disais qu'elle allait mal. Qu'est-ce qui ne va pas actuellement chez Areva? C'est sur le long terme qu'elle a du mal à voir? C'est des investissements qui ont été mal faits?
Alors, il y a un peu de tout, en fait. Il y a la conjoncture qui est en fait le choc Fukushima qui a nuit à Areva.
Oui.
Mais normalement, si la gouvernance était bonne, ça aurait pas dû poser tellement de problèmes. L'entreprise se serait adaptée. Or, il y a eu des erreurs stratégiques, en particulier sur l'EPR, le fait qu'on livre clé en main une centrale, alors qui avec de grandes innovations, mais livrer clé en main donc à un certain prix. Et en fait, il s'avère que le prix a été sous-estimé parce qu'on savait pas le
coût.
Parce qu'on
sait pas le construire, oui.
Voilà,
tout simplement.
Et c'est pas fini de peser sur le budget d'Areva.
D'accord.
Voilà. Donc il y a à la fois des facteurs exogènes et des facteurs qui relèvent de l'entreprise elle-même.
Qui relèvent aussi de l'entreprise elle-même. On va procéder dans l'ordre. Hein. On continue avec Google. Moi, la question que j'aurais envie de vous poser, est-ce que c'est pas dangereux pour l'Union européenne de s'en prendre à un tel géant? On a vu que Barack Obama lui-même avait critiqué cette initiative européenne.
Est-ce qu'il risque grand-chose à part de se casser les dents et d'être débouté juridiquement? Rien du tout, hein.
Je pense pas que Google ait.
Il peut y avoir de vengeance de Google, de représailles.
Parce que c'est un gros marché pour Google. Google représente quand même 95% des recherches. Et sur Android a aussi une grosse part. Donc, faut pas négliger ça. Ils seraient éventuellement prêts à négocier, je pense, si la négociation n'est pas trop. Si la commission n'est pas trop dure, dans la négociation.
Oui, je me souviens plus du tout comment s'était soldé le cas de Microsoft que tu évoquais dans les années 2000.
Ouais, condamnation. 400 millions, il me semble. 400 millions d'euros de condamnation, donc c'est
oui.
pas rien.
Oui. Mais est-ce que c'est beaucoup pour Microsoft ?
Ben c'est non, c'est
non,
sûr.
C'est mais un peu mais
ça, a quand même, ça a quand même eu des effets sur Internet Explorer. À ce moment-là, c'était dominant. Ça l'est, aujourd'hui, c'est marginal à tel point que ça a été quand même abandonné, Explorer. Donc ça a eu des effets. Pas tant dans la manne, mais dans la réorganisation nécessaire.
Je sais pas, moi, je trouve ça encore, entre guillemets, sain que des institutions politiques puissent attaquer des géants économiques, quelle que soit leur taille, etc., pour faire valoir le droit. Quoi.
C'est oui, c'est un signe encourageant pour la démocratie.
C'est une zone de non-droit, l'économie.
Oui. Puis on reproche souvent à l'Union européenne d'être assez peu démocratique. C'est une critique qu'on lui fait souvent. C'est vrai qu'effectivement, c'est peut-être un peu salutaire de voir une institution comme ça s'en prendre à un géant aux pratiques contestables. Alors maintenant, on va aborder le sujet
brûlant.
Le sujet brûlant et douloureux de ces derniers jours. Donc le naufrage de ces migrants et le nombre de victimes qui a été extrêmement important. Alors en Italie, on a le sentiment que ça a vraiment choqué l'opinion italienne encore plus que les autres. Elle avait déjà été assez éculée par Lampedusa il y a quelques années, par le naufrage de ce paquebot. Au large des côtes.
Ils sont en première ligne. Et puis aussi, enfin, je ne l'ai pas dit dans la chronique, mais le fait que l'opération Triton ait beaucoup moins de moyens que Mare Nostrum, ça montre aussi peut-être que tous les pays européens ne se sentent pas impliqués ou concernés par ça, alors que pourtant ça devrait être une politique globale. Et je regardais, je crois que c'est le nombre de visas accordés aux migrants. Enfin, tout le monde ne joue pas le... Je crois que l'Allemagne en a accordé 30 000. L'année dernière, alors que l'Angleterre en a accordé 143, tout le monde ne fait pas le même, ne joue pas le jeu en fait. Et donc après, il y a forcément l'Europe a du mal à. C'est pour ça que c'est dur aussi d'accuser l'Europe, qu'après à l'intérieur de l'Europe, tout le monde n'est pas.
C'est encore un problème finalement lié à la gouvernance même et au système de l'Union européenne qui a
et
du mal.
Et on en revient
à...
toujours là. Hein.
Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, on en revient toujours à ce problème de fond de l'Union européenne.
Parce que là, on refile tout à l'Italie, à la Grèce dans une moindre mesure, et puis hop, c'est tout. Alors l'Italie fait avec ses pauvres moyens, en plus en temps de disette économique, des investissements pour des migrants, c'est pas du tout d'actualité.
Et puis ça passe mal auprès,
et ça passe mal auprès des populations. Enfin, c'est...
Bah oui, puisqu'il y a encore une fois, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais sur France Inter, il y a quelques jours, il y avait Stéphane Ravier, donc le maire Front National de je ne sais plus quel arrondissement de Marseille, qui... Qui évidemment se disait ému par ce drame et versait des larmes de crocodile, mais nous disait que c'était de toute façon la faute des gouvernements français et européens depuis 40 ans et qu'il y avait cet appel d'air de l'immigration et on en revenait à cette rhétorique classique.
Mais après, je trouve que c'est très dur en fait de. Parce que là, je trouve ça très abstrait en fait. 800 migrants qui meurent en Méditerranée, bizarrement, là, on s'identifie moins en fait à un accident d'avion, à des gens qui nous ressemblent, etc. Enfin, c'est bizarre à dire, mais c'est comme ça, et c'est malheureusement comme ça. Et donc sur E89, le fameux article, il disait qu'une des pistes était aussi de recueillir les témoignages des survivants pour susciter
une plus de compassion
opinions publiques, parce que l'opinion publique a peur aussi, enfin ça fait peur quand on voit cette, enfin c'est vrai aussi hein, cette les bouleversements que ça peut induire, etc. Il faut réfléchir à tout ça et c'est très compliqué.
Et puis tout ça est replacé aussi dans le contexte des changements géopolitiques qui ont beaucoup affecté la Méditerranée ces dernières années, la guerre contre Kadhafi et puis l'explosion complète de la Libye ces dernières années, la guerre au Mali où là aussi l'État malien a complètement explosé.
À Syrie où on n'est pas intervenu et finalement on aurait peut-être mieux fait d'intervenir.
Oui, mais Bachar el-Assad est redevenu fréquentable. Ne faisons pas de mauvais esprits.
D'après David Pugelet.
Alors il est temps de conclure, chers auditeurs, ce quatrième numéro du journal radiophonique Amplifié. Alors, un numéro un petit peu particulier dans la mesure où on a eu quelques petits problèmes d'organisation. Céline n'a malheureusement pas pu être là pour la discussion avec nous. Néanmoins, vous nous retrouverez la prochaine fois pour le prochain numéro au complet, comme d'habitude, autour de la table. Merci à tous, à vous, pour votre participation toujours aussi active et pour vos chroniques toujours aussi bien préparées. Merci à ENS Média et à Léo pour la technique. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain numéro.